Dans la question du jour, hier, nous vous posions la question suivante. Israël doit-il être impliqué dans l'après-Hamas à Gaza? Alors Lise, quels sont les résultats? Et je vous laisse nous présenter votre invité.
Alors, on a une majorité très claire de oui aujourd'hui sur cette question. 62% de oui à seulement 38% de non sur Facebook, et c'est le moins des trois réseaux sociaux. 71% de oui sur Insta pour seulement 29% de non, et Twitter, 75% de oui pour 25% de non. Donc, un oui très clair. On va demander à notre invité Stéphane Amar. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste et spécialiste du Moyen-Orient. Stéphane, est-ce que vous êtes d'accord avec nos invités? Est-ce qu'Israël doit être impliqué dans l'après-Hamas à Gaza? Et surtout, de quelle manière ça pourrait se passer selon vous?
Je crois que maintenant, il ne fait aucun doute pour personne qu'Israël est obligé de s'impliquer dans la bande de Gaza. Quelle forme cela va prendre? C'est bien sûr toute la question, tout le débat actuel. Est-ce qu'il faudra s'implanter sur le long terme? Est-ce qu'il faudra une présence internationale? Est-ce qu'il faudra recoloniser Gaza, comme le suggèrent certains en Israël, dans les partis de droite? Ces questions sont sur la table. Ce qui est certain, c'est qu'après le 7 octobre, il paraît complètement inouï qu'Israël se soit retiré de cette manière de la bande de Gaza, et notamment en abandonnant le fameux axe de Philadelphie, qui est cette frontière entre Gaza et l'Égypte, cette frontière par laquelle sont passées toutes ces armes, toutes ces tonnes de béton qui ont permis de construire ces tunnels, et dont Israël n'avait absolument pas le contrôle depuis 2005. Il comptait sur les Égyptiens. Or, il est évident qu'à minima, Israël doit reprendre le contrôle de cet axe, doit détruire tous les tunnels qui reliaient l'Égypte à Gaza pour que ça ne se reproduise pas, tout simplement.
Alors, on a aussi en tête un gros souci, c'est que les habitants des localités du sud, pour l'instant, ne peuvent absolument pas y retourner. Et pour y retourner, ils ont besoin d'avoir des garanties de sécurité de la part de l'armée israélienne et du gouvernement. Et cette histoire d'un corridor de sécurité, peut-être, Stéphane, apparaît dans plusieurs discussions.
Alors, il apparaît quand même absolument sûr maintenant que les alentours de la bande de Gaza ont été sécurisés par Israël. Il y a eu bien sûr cet échec complètement stupéfiant à la fois du renseignement et de l'armée israélienne qui a permis donc aux terroristes du Hamas de s'infiltrer sur le territoire israélien. Mais en quelques heures finalement, cette offensive a été refoulée, les alentours ont été sécurisés. Techniquement, si vous voulez, aujourd'hui, on peut revenir habiter aux abords de la bande de Gaza. Les tirs de roquettes ont largement diminué en intensité du fait bien sûr de l'opération israélienne dans la bande de Gaza. Il y a de plus en plus de localités qui sont classées en vert dans ces alentours. Donc, je dirais que dans quelques semaines, dans quelques mois maximum, on pourra en toute sécurité revenir habiter aux alentours de la bande de Gaza. Mais il faudra bien sûr, pour garantir à long terme cette sécurité, que le Hamas soit éradiqué et qu'il y ait une vision, je dirais, à minima à moyen terme de ce que va devenir la bande de Gaza.
Alors, il y a également une autre discussion qui a lieu sur le fait de surveiller, Stéphane Amar, la reconstruction de Gaza, parce que cette reconstruction, elle va avoir lieu, elle pourrait prendre jusqu'à 3 ans. Sans doute que la communauté internationale va la financer. Est-ce que donc il faut qu'Israël vérifie que cette fois-ci, tous ces fonds vont bien servir à reconstruire des hôpitaux, des écoles et des infrastructures civiles et pas du terrorisme?
Alors d'abord, on ne sait pas exactement qui va venir retourner habiter dans la bande de Gaza. Il faut bien comprendre que même si évidemment les images qu'on reçoit sont partiales, parce qu'elles émanent soit de l'armée israélienne, soit du Hamas, mais on a déjà capitalisé un peu de la situation, il faut bien mesurer le niveau de destruction, notamment du nord de la bande de Gaza. Il est évident que ça ne permettra pas à toute la population qui se trouvait dans le nord de Gaza de retourner y habiter. C'est quelque chose qui est peut-être difficile à dire pour l'instant, difficile à admettre, mais enfin c'est une réalité dont chacun va bientôt pouvoir se rendre compte. Pour les gens qui reviendront habiter, ce que va essayer de faire Israël, en tout cas ce qu'il dessine pour l'instant, c'est de conclure des accords avec des pays amis, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, c'est-à-dire Bahreïn, c'est-à-dire peut-être l'Égypte aussi et dans une moindre mesure la Jordanie, pour mettre au point effectivement des plans de reconstruction qui excluent toute résurgence de l'islamisme radical et d'un pouvoir comme celui du Hamas, que le Hamas a exercé depuis 2007 dans la bande de Gaza. Donc ça sera bien sûr, pour répondre à votre question, en étroite collaboration avec les autorités israéliennes. Et là, il y a une unanimité presque totale en Israël, de gauche ou de droite, pour dire qu'Israël ne peut plus, comme ça, se laver les mains, faire comme si la bande de Gaza pouvait se développer toute seule. Il est évident qu'Israël est obligé désormais de s'impliquer dans cette reconstruction.
Bien sûr. Benny Gantz, justement, parlait de ce que vous venez de dire, Stéphane, de localiser des entités locales qui vont s'occuper de la médecine, des questions civiles, etc., avec des pays arabes modérés pour cette gestion de la bande de Gaza. En tout cas, le vrai débat qu'on entend aussi aujourd'hui, c'est faut-il ou non faire confiance à l'autorité palestinienne ? Il y a évidemment les États-Unis qui prônent pour cette solution et Benjamin Netanyahu qui dit pas question de laisser à Gaza des gens qui éduquent au terrorisme, financent le terrorisme et soutiennent le terrorisme.
Alors, c'est une question extrêmement intéressante que vous posez, à laquelle il faudrait sans doute consacrer des heures de débat. C'est une question tout à fait centrale, la question de l'autorité palestinienne. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'autorité palestinienne, certes, a collaboré avec Israël au point de vue sécuritaire pour lutter précisément contre l'expansion du Hamas en Cisjordanie cette fois-ci. Mais dans le même temps, l'autorité palestinienne a eu exactement le même discours que le Hamas durant toutes ces années. Il y a juste, si vous voulez, une différence de stratégie, peut-être de rythme, mais l'autorité palestinienne a prôné dans les manuels scolaires, dans ses médias, sur ses réseaux sociaux, la destruction d'Israël. Elle a prôné la poursuite de la lutte armée, elle a honoré tous les auteurs d'attentats en Israël, elle a financé leurs familles. Donc, si vous voulez, elle a entretenu d'une certaine manière l'hostilité des Palestiniens à l'encontre d'Israël et le refus tout simplement du fait israélien, le refus du sionisme. Il suffit d'ouvrir un journal palestinien, il suffit de discuter avec un officiel palestinien pour comprendre que l'objectif final des Palestiniens, c'est de retourner vivre à Yafo, dans le milieu de Tel Aviv, à Haïfa, à Nazareth, etc., dans l'Israël reconnu. Et c'est d'ailleurs ce qu'a très bien exprimé le Hamas par son opération. Cette opération a été menée sur le territoire internationalement reconnu. Et il faut voir les sondages qui nous disent qu'à la fois en Cisjordanie et à Gaza, il y a un soutien total à cette opération, y compris dans les massacres qui, quand ils ne sont pas niés, sont tout simplement approuvés par une grande majorité de Palestiniens. Donc, si vous voulez, il est évident, contrairement à ce que disent ou veulent faire croire les Américains, que la paix ne pourra pas passer par l'autorité palestinienne, elle passera par une révolution copernicienne du côté palestinien, avec une acceptation du sionisme, tout simplement. Ce qui est déjà, d'ailleurs, je signale en passant, exprimé par des gens comme Mansour Abbas, le dirigeant arabe israélien islamiste, qui lui reconnaît tout à fait l'État d'Israël comme un État juif et qui, dès le début, dès le 7 octobre, a condamné sans aucune ambiguïté les massacres et appelé à la libération des otages.
Alors évidemment, Ismaël Haniyeh, de son côté, dit qu'il n'y a aucun avenir dans la bande de Gaza sans le Hamas. Et vous citiez les sondages, Stéphane Amar. Bien entendu, c'est inquiétant, mais surtout, cette question qui se pose sur place, c'est est-ce qu'il y a d'autres leaders politiques palestiniens qui sont capables justement d'être dans une autre rhétorique et de faire cette révolution copernicienne dont vous parliez ?
Oui, bien sûr, il y en a. Pour l'instant, ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils seraient tout simplement en danger de mort. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a même pas de liberté de pensée, ni à Gaza, ni en Cisjordanie. Mais il y a, effectivement, quand les portes sont closes, des gens qui s'expriment tout à fait dans ce sens. Simplement, ils ont besoin d'avoir un cadre clair du côté israélien. Ils ont besoin d'être encouragés et surtout sécurisés. S'il y a une ambiguïté permanente entre ce que veut faire Israël, ce que veut faire Israël à Gaza, ce que veut faire Israël en Cisjordanie, quel est le projet israélien finalement pour ces territoires, eh bien aucun Palestinien ne peut se positionner dans ce flou. Il faut absolument, et je pense que c'est vraiment la première étape, qu'Israël clarifie son discours, qu'Israël explique quel est le but, cesse de dissimuler ses véritables intentions, notamment en Cisjordanie. Je l'ai écrit, je l'ai dit, le projet israélien va vers une annexion de ce territoire, que ce soit par les routes, que ce soit par la politique d'implantation, que ce soit même par l'orientation du discours politique ces dernières années, il est évident qu'Israël ne se défera pas des lieux fondateurs de son identité, que sont Jérusalem, Hébron, Naplouse. Donc, si vous voulez, tout ça, ça demande un éclaircissement du discours. Et à ce moment-là, oui, des Palestiniens pourront se positionner et appeler à la paix et à l'acceptation d'Israël, sachant évidemment que le but est que tout le monde puisse vivre en paix, en sécurité, avec des droits égaux sur son territoire.
Et vous y croyez vraiment, Stéphane? Parce que quand on voit les sondages, justement, et cette éducation à la haine, on se dit que ça va être très difficile tout de même d'avoir des générations qui ont été biberonnées comme ça à la haine des Juifs. Comment vont-ils changer d'idée du jour au lendemain?
Ah ben ça prendra bien sûr beaucoup de temps, mais on a un exemple sous les yeux, si vous voulez. J'y crois, mais j'observe aussi la réalité. Il y a dans les frontières reconnues de l'État d'Israël 2 millions de Palestiniens qui vivent depuis 1948, qui se développent tout à fait harmonieusement, qui s'intègrent dans la société. Ce sont de grands médecins, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des avocats, des directeurs d'université, et bien sûr une myriade d'employés, de gens ordinaires. Et il y a très rarement des violences de la part de ces gens-là. Ils acceptent l'État d'Israël. Les sondages montrent même qu'ils soutiennent l'État d'Israël dans sa guerre contre Gaza, mais simplement parce qu'eux évoluent dans un cadre clair. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, il y a eu des émeutes en 2021, on s'en souvient. Enfin, ça a duré 5 jours, il y a eu 5 morts, rien de commun avec ce qui vient de se passer le 7 octobre. Donc, si effectivement les Palestiniens vivent dans un cadre démocratique, si surtout leur système éducatif, effectivement, parce que c'est très important, vous avez raison de le signaler, si leur système éducatif est conforme, je dirais, aux normes démocratiques, aux normes occidentales, c'est-à-dire qu'il n'incite pas à la haine, qui n'incite pas au djihad à chaque page, parce que c'est le cas des manuels palestiniens, il est évident qu'une paix est possible, on le voit très bien devant nous. Simplement, encore une fois, il faut complètement clarifier les cadres, et y compris au niveau moral d'ailleurs, avoir des exigences qui ne sont pas du tout celles-là, parce que laisser, si vous voulez, les Palestiniens vivre dans un tel cadre moral, je pense que ça c'est le pire des racismes et le pire des mépris.
Merci beaucoup Stéphane Amar pour cette analyse, journaliste et spécialiste du Moyen-Orient. À très bientôt, bonne journée.
Merci beaucoup, Lise. Merci. Au revoir.